Elle reste pour beaucoup le cœur battant de notre histoire et la pièce architecturale d'une religion qui fut longtemps la première puissance de France, à la fois lieu sacré et sanctuaire commun. Du haut de ses 8 siècles et demi, la cathédrale de l'île de la Cité à Paris est sans conteste un poème debout, comme l'a écrit la romancière Estelle Sarabulle dans une tribune il y a 2 jours. Il n'empêche, l'émotion qui a surgi lundi face à l'incendie de Notre-Dame soulève un certain nombre de questions. Entre émotion patrimoniale et symbole du catholicisme, c'est toute une nation qui a dit son attachement à une église. Est-ce là les vestiges de notre relation si particulière aux religieux? Alors que les chrétiens célèbrent ce week-end la fête de Pâques, nous avons sollicité l'expertise d'un historien du catholicisme, Denis Pelletier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur d'études à l'EPHE, l'École pratique des hautes études. Vous travaillez sur le catholicisme contemporain et sur ses rapports avec la société. Avec le recul de la semaine, Denis Pelletier, comment analysez-vous ce qui s'est passé, cette émotion nationale, même mondiale? On en parlait dans la fabrique médiatique il y a une vingtaine de minutes autour d'une cathédrale. On a même parlé de ferveur alors qu'on croyait que ce pays ne croyait plus à rien. Alors notre époque serait-elle religieuse, comme le disait le journaliste Richard Verly tout à l'heure?
Je ne sais pas si notre époque est religieuse. On est le pays le plus... On est probablement la société la plus sécularisée d'Europe, en tout cas la plus sécularisée de l'Europe catholique. Et on est aussi le pays où les passions religieuses sont les plus fortes, et ce contraste est vraiment intéressant. Le problème, vous parliez d'émotion, on parle d'émotion patrimoniale. Pour moi, le problème d'une émotion collective, et c'est quelque chose qu'on voit depuis quelques années ressortir, l'émotion collective, c'est un moment assez étrange où chacun a le sentiment que son expérience du moment a la même valeur que celle de tous les autres. Qu'il n'y a plus de hiérarchie dans l'émotion, que l'expérience de chacun vaut autant que celle de tous les autres. Et on a vu ça plusieurs fois récemment. Et je suis pas en train de naturaliser les choses, hein, la politique revient très vite. Mais c'est intéressant parce que dans le rapport à Notre-Dame, au moment où Notre-Dame brûlait, il y a une émotion qui chez chacun peut se saisir d'un espèce d'imaginaire collectif et l'accommoder en fonction de sa propre intimité. Et la relation, dans la relation à l'incendie de Notre-Dame, il y a le sentiment chez les individus que c'est chez moi que ça brûle. Et ce qui est intéressant, c'est la façon dont les gens construisent le chez moi, du chez moi que ça brûle. C'est-à-dire, on peut être croyant ou non croyant, on peut être croyant d'une certaine manière ou d'une autre. Notre-Dame, tout a été dit. C'est Victor Hugo, c'est le monument, c'est l'histoire, c'est le peuple, c'est le centre du catholicisme, c'est l'endroit où on a sonné le tocsin au moment des attentats contre Charlie Hebdo. Enfin, on peut se l'attribuer, se l'approprier de toute une série de manières. Et c'est très intéressant, me semble-t-il, parce que ce sont ces moments où l'appropriation intime d'un objet, l'appropriation intime d'un lieu, fabrique du commun.
Oui.
Et donc il y a à la fois un respect des expériences personnelles et une diversité des expériences personnelles qui s'inscrit dans un, ou qui donne le sentiment de s'inscrire dans un projet collectif.
Oui, parce que au fur et à mesure de la semaine, se sont dégagées des visions plus chrétiennes avec cette semaine sainte qui culmine avec le week-end de Pâques. Mais pendant quelques jours, on avait le sentiment, Denis Pelletier, qu'il n'y avait plus ni croyants ni profanes, que tout le monde était uni dans une même vision. De cette cathédrale qui est un édifice religieux, quoi qu'on en dise, et quoi que même Jean-Luc Mélenchon a parlé de notre cathédrale commune, il y a beaucoup de R qui effectivement la laïcise, mais c'est la spécificité de cet endroit quand même, ce lieu de rassemblement.
C'est la spécificité de cet endroit, c'est la diversité du nôtre, c'est un nôtre qui est mon. C'est mon Notre-Dame, c'est ma Notre-Dame, qui n'est pas tout à fait la même que votre Notre-Dame, mais nous avons en commun cette Notre-Dame. Vous voyez, c'est pas spécifique à Notre-Dame. Ce qui est intéressant, ce sont les moments où il y a des événements de ce type. Si vous vous rappelez ce qui s'est passé il y a quelques années après l'attentat contre Charlie Hebdo, le slogan « Je suis Charlie », qui pour moi est un des slogans les plus passionnants qu'on ait inventé récemment, le slogan « Je suis Charlie » était intéressant parce que c'était pas « Nous sommes Charlie », c'était « Je suis Charlie ». Et quand dans le « jeu », on pouvait tout mettre. On pouvait mettre « Je suis Charlie » parce que je suis lecteur de Charlie depuis toujours. On pouvait mettre « Je suis Charlie », »,« Je déteste Charlie », mais je tiens à ce que Charlie existe. On pouvait mettre « Je suis Charlie » parce que j'aimais Cabu quand j'avais 20 ans, etc., etc. Cette capacité de certains moments à fabriquer des appropriations intimes Et à inscrire ces appropriations intimes dans une expérience collective est très intéressante. Et je pense que c'est ce qui se repasse autour de Notre-Dame. Et ça dit quelque chose de la société contemporaine.
Oui, mais vous avez l'air, Denis Pelletier, de rejeter, de mettre de côté malgré tout la spécificité de ce lieu. Moi, j'aimerais bien vous ramener à la spécificité du lieu. Parce que vous pensez vraiment que cette émotion intime et collective à la fois n'a rien à voir avec le bâtiment en lui-même, avec ce
poulet. Je suis absolument convaincu que par ailleurs, ça a à voir avec le bâtiment dans sa complexité, bien évidemment. La comparaison vaut pour le mécanisme qui se met en place. Hein. Je suis absolument convaincu que ça a quelque chose à voir avec le bâtiment lui-même, avec sa dimension religieuse, avec sa dimension historique. Oui, ça pour moi c'est sûr. Et alors on pourrait le développer, on pourrait le préciser. Notre-Dame, c'est ce bâtiment qui porte un certain nombre de siècles d'histoire, c'est ce sentiment qui porte une culture catholique, une culture chrétienne. La République laïque est une république très intéressante parce que les républicains qui ont fabriqué la laïcité l'ont fabriqué en s'appuyant très fortement sur l'idée d'un enseignement de l'histoire qui était capable de donner une culture citoyenne commune. Or, cet enseignement de l'histoire de France, était entièrement traversé par la question religieuse. Et je pense que l'ambivalence de notre relation à un bâtiment comme Notre-Dame et plus généralement au christianisme tient à ça. C'est ce qui rend nos débats sur la laïcité quelquefois compliqués. C'est que la laïcité s'est entièrement construite sur un débat avec un passé historique qui était chrétien, en grande partie, et avec lequel il fallait se séparer, en quelque sorte. Et ça donne à la question chrétienne une dimension à la fois très présente dans le débat public et en même temps présente comme quelque chose dont il faut se défier. Et donc on a ce double rapport qui pour moi est politiquement très très intéressant.
Ce qu'on retrouve d'ailleurs là encore une fois de plus avec Notre-Dame, le lieu même qu'est Notre-Dame, puisque c'est, et ça a toujours été le cas, Denis Pelletier, le point de rencontre entre le politique et le religieux. Est-ce que, puisque vous parlez de laïcité, est-ce que vous par exemple avez été choqué qu'une partie du gouvernement assiste à la messe chrismale donnée à Saint-Sulpice mercredi en hommage typiquement à Notre-Dame dans un
choqué
lieu religieux?
Non,
c'est pas la première fois que ça arrive, ça,
choqué,
c'est pas la
non,
dernière.
Non, c'est pas la première fois. Je sais pas si c'est la première fois que ça arrive ou non, je me souviens pas. Choqué a priori non. Je vois pas pourquoi je serais choqué. Lorsque le père Hamel est assassiné il y a deux ans et qu'il y a une manifestation commune, vous avez ce moment un peu étrange et un peu étonnant où à Notre-Dame de Paris, autour de l'archevêque, sont présents toutes les communautés spirituelles, juifs, chrétiens, musulmans, francs-maçons, l'ensemble du gouvernement, et c'est une espèce de manifestation d'unité, où on est en train de dire aux gens qui ont tué Hamel, vous cherchez à nous diviser et vous n'y arriverez pas. Et c'est quelque chose qui est exprimé à partir de Notre-Dame. Et Notre-Dame est intéressante pour cette raison-là. Et je vous parlais tout à l'heure du tocsin qu'on fait sonner au moment des attentats. Il faut se souvenir ce que c'est que le tocsin. Le tocsin, c'est cette cloche un peu grêle, pas très puissante, assez grêle, mais avec un son qui porte très très loin et qui, depuis des siècles, annonce les mauvaises nouvelles. Et au moment, dans toute la campagne française, dans toutes les campagnes françaises, et qui au moment des mauvaises nouvelles, au moment de l'incendie, au moment qui approche, au moment de la bande de brigands qui approche au XVIIe ou au XVIIIe siècle quand on avait peur des brigands, au moment où l'orage approche, au moment où quelque chose de dangereux approche, dit attention, faisons corps. Et le fait que ça continue de se dire à partir de Notre-Dame, pas uniquement à partir de Notre-Dame, est extrêmement intéressant.
Vous parliez de l'ambivalence de notre relation à la religion et en l'occurrence à la religion catholique qui s'est bien exprimée cette semaine. Et je voudrais qu'on distingue à la fois ce qui s'est exprimé dans la relation justement entre le politique et le religieux et avec cette récupération politique, l'exploitation même identitaire du patrimoine et le fait que chacun parmi les politiques se réapproprie, j'ai du mal avec les R ce matin, l'héritage commun, mais aussi distinguer le rapport de l'État avec la religion du rapport de la société, donc de chacun d'entre nous, des citoyens. Sur l'État, on a pu entendre Monseigneur Aupetit, l'archevêque de Paris, regretter que le président de la République n'ait pas eu de mots de compassion pour les catholiques. C'est-à-dire que ce joue-là, vous parliez d'ambivalence, ce symbole aussi des relations conflictuelles en permanence entre l'État et l'Église, Denis Pelletier.
Oui, c'est un couple qui fonctionne merveilleusement bien. Historiquement, c'est un couple qui fonctionne merveilleusement bien. À chaque fois qu'on se réconcilie un tout petit peu, on trouve des moyens de continuer de se disputer. C'est très intéressant du point de vue de la scène politique. Et ce que vous dites me permet de corriger quelque chose. Cette question d'émotion collective et de, il faut pas la naturaliser, c'est-à-dire il faut pas imaginer que ce soit totalement spontané. Il y a un moment où il se passe quelque chose qui est très spontané parce qu'on est saisi. Mais aussitôt la politique reprend le dessus. Et on voit bien comment depuis 8 jours la politique reprend le dessus.
Il y a une trêve, de 2 jours et puis effectivement
cette émotion est elle-même construite par tout un système de représentation, par tout un système de domination, Et je disais tout à l'heure que devant l'événement, la parole de chacun vaut celle de tous les autres, mais très vite, la parole des puissants, la parole des savants, la parole de ceux qui savent ou ceux qui parlent pour les autres reprend le dessus. Et donc oui, il faut cette dimension politique est absolument importante. Mais encore une fois, ce que je trouve intéressant dans cet événement-là, c'est la façon dont notre République laïque continue de se construire en partie autour de la confrontation avec ce qui se situe en quelque sorte sur ses marges, c'est ce qui la questionne et qui est la résistance du fait religieux.
Oui, et cette ambivalence
et la résistance très ambivalente,
cette relation ambivalente avec la religion catholique, dont Notre-Dame donc serait le symbole. Ambivalence que vous retrouvez, Denis Pelletier, dans l'ampleur des dons. Avec une question en creux, est-ce que la France est attachée plus à sa religion qu'à son patrimoine ou vice-versa? Et ces voix qui s'élèvent, notamment à gauche, pour dire que les milliardaires n'ont pas la main aussi généreuse pour les pauvres, là aussi, ambivalence pour vous, comment l'analysez-vous?
De deux manières, je constate comme chacun qu'il est probable effectivement que les milliardaires n'ont pas la même générosité pour les pauvres, puisque un certain nombre d'organisations, d'ONG sont actuellement en difficulté. Et puisqu'on a vu comment la disparition de l'impôt sur la fortune s'est traduite très rapidement par une diminution des dons à un certain nombre d'ONG. Donc oui, il y a une difficulté, et là on voit revenir les questions de représentation collective, de représentation politiquement informée et de domination. En même temps, j'ai le sentiment que les riches ne sont pas les seuls à avoir plus d'argent pour Notre-Dame que pour les pauvres. J'ai l'impression que c'est l'ensemble de la société. Et donc ça questionne la manière, la relation que notre société entretient avec les inégalités. Avec les inégalités sociales et avec les questions de pauvreté, d'exclusion, etc. C'est pas seulement les riches. Enfin, la mobilisation, autant qu'on le sache, on est à 8 jours, il y a beaucoup de discours qui circulent, il faut attendre un petit peu, mais autant qu'on le sache, la mobilisation, elle est aussi celle des fidèles, elle est aussi celle du français moyen, j'ai envie de dire, et je trouve ça très bien et éminemment respectable. Hein, j'ai pas du tout envie de critiquer cette démarche. Je trouve ça très, très respectable. Mais en même temps, je vois que Notre-Dame est capable de mobiliser une charité de riches comme de pauvres, une charité, une solidarité, tout ce que vous voulez, charité est le terme chrétien, une solidarité que la pauvreté n'est pas forcément capable de mobiliser.
En tout cas, ces dons continuent de susciter la polémique. C'est ce qu'on va voir dans la revue de presse de Natacha Triot, et c'est tout de suite. Il est 8h30 sur France Culture. Denis Pelletier, certains ont vu dans ce qui s'est passé en début de semaine un symbole. Symbole parce qu'on est en pleine crise politique, on est aussi en pleine crise de l'Église catholique. D'ailleurs, les uns et les autres ont appelé à se reconstruire, en plus de reconstruire la cathédrale. Nous sommes donc en pleine semaine sainte qui se termine avec ce week-end de Pâques. Est-ce que c'est un signe de la colère de Dieu?
Oh, ça, il faut consulter quelqu'un d'autre que moi pour avoir la réponse.
Plus largement, en 2002, vous vous avez écrit La crise catholique. Cette crise catholique, elle portait sur les années 1965-1978. Un an plus tard, en 2003, la sociologue des religions Danielle Hervieux-Léger a écrit Catholicisme, la fin d'un monde. Aujourd'hui, de très nombreux livres continuent de parler de la fin de ce monde. On est dans une période où l'Église catholique est secouée par des scandales, scandales de pédophilie en son sein, abus sexuels en tout genre, révélation de pratiques homosexuelles contraires à son dogme. Quel terme utiliseriez-vous, Denis Pelletier ? Une crise, un besoin de renouveau, la fin d'un monde, quoi ? Comment caractériser cette époque pour le catholicisme français et mondial d'ailleurs ?
Oh, une crise évidemment. C'est ce qui se passe autour de une crise évidemment. Ce qui se passe autour de la pédocriminalité et des violences à l'égard des religieuses est une crise et à la fois une crise française et une crise globale. Donc une crise évidemment. Le monde catholique est un monde dynamique. Il faut pas l'oublier. Ça reste un monde dynamique même s'il n'occupe plus une place centrale à mon avis dans la culture française. Mais ça reste un monde dynamique.
Quand vous dites dynamique, c'est qu'il est en perpétuelle réflexion sur lui-même, en reconstruction.
Ce qui caractérise le catholicisme français, c'est son pluralisme. Depuis toujours. Il n'y a jamais eu de grand parti catholique en France. Le seul moment où il y a eu un parti démocrate chrétien un petit peu important, c'était l'époque du MRP, du Mouvement Républicain Populaire, qui a été fondé en 1944 et dont l'histoire est l'histoire d'un déclin. C'est-à-dire que la démocratie chrétienne n'a jamais réussi à s'imposer et un parti catholique n'a jamais réussi à s'imposer ou d'inspiration catholique parce que le catholicisme français est extrêmement divers et extrêmement pluraliste. Et vous voyez, pour venir sur ces questions, on a vu revenir dans la vie politique très récemment, dans les dernières années, on a vu revenir un catholicisme conservateur de droite qui s'est mobilisé à travers les questions de la manif pour tous et la lutte contre les politiques du genre et contre les politiques de la vie, pour le dire très très vite. Mais on voit par exemple, à l'occasion de la crise pédophile, ressortir un autre type de catholicisme qu'on croyait disparu et qui est un catholicisme, alors je ne dirais pas de gauche parce que je ne suis pas sûr que ce soit un catholicisme de gauche, mais un catholicisme de la réforme, un catholicisme du renouveau, un catholicisme de la discussion avec la modernité, et on voit ressortir ce pluralisme des catholiques en France qui est pour moi une caractéristique très très forte.
Sur cette montée en puissance d'un catholicisme conservateur avant d'en venir au catholique réformateur dont vous parlez, Denis Pelletier, c'est vrai que d'ailleurs se multiplient justement les analyses sur cette droitisation du catholicisme. Je pense au livre d'Henri Tinck, La grande peur des catholiques de France. Je pense au livre de Yann Raison du Clusio, Une contre-révolution catholique, ou encore à celui de Jérôme Fourquet, L'archipel français. Tous ces livres-là analysent aussi cette droitisation du catholicisme. Comment expliquez-vous cette montée en puissance du conservatisme au sein même du catholicisme, alors, dont effectivement le point d'orgue a été la manif pour tous. Mais
alors il faut je pense que ce à quoi on assiste, mais qui ne concerne qu'une section du catholicisme, il se trouve que cette section a été visible à un moment et continue de l'être et continue de peser pour des raisons qu'on peut expliquer. On assiste à quelque chose qui est pour moi de l'ordre du retour d'un catholicisme que je dirais patrimonial. Ce que j'entends par catholicisme patrimonial, le mot n'est pas péjoratif, hein. Et puis ça renvoie à des événements récents, l'idée de patrimoine. C'est l'idée d'un catholicisme comme patrimoine qu'il faut défendre.
Et ce patrimoine, c'est exactement ce qui se joue en ce moment.
C'est ce qui se joue en ce moment, mais c'est le lien qu'on peut faire entre ce qui se joue en ce moment et on peut faire beaucoup de liens avec Notre-Dame, Notre-Dame, c'est l'endroit qu'on respecte même si on n'est pas catholique. Ça veut dire que l'Église, même si on n'est pas catholique, doit demeurer respectable. Et ça explique en partie la très grande violence de la réaction de la société française lorsqu'on découvre qu'à l'intérieur de l'Église, on cache les crimes de pédophilie. Ça va ensemble. Vous voyez ? Donc, mais pour en revenir à ce que je vous disais, je pense qu'il y a un catholicisme très minoritaire. C'est un catholicisme très minoritaire. C'est une minorité dans la minorité, ce catholicisme conservateur patrimonial. Il faut bien l'entendre. Hein. Ce ne sont pas des gens très nombreux, même si ce sont des gens qui maîtrisent...
Même si ce sont les plus visibles aujourd'hui.
Ils sont visibles et ils maîtrisent les réseaux sociaux parce qu'ils ont le capital culturel qui leur permet de faire ça, mais ils ne sont pas majoritaires. Catholicisme patrimonial, c'est l'idée qu'il existe un patrimoine de valeurs qu'il faut défendre parce qu'il est indispensable à la vie en société. Et c'est éventuellement, pour un certain nombre d'entre eux, le fait qu'il existe un patrimoine chrétien, qu'il est un patrimoine de culture, de croyances, de pratiques, qu'il est indispensable de défendre si l'on veut que la France reste la France. Et c'est ce qui fait que, dans l'émergence de ce mouvement qui a culminé au moment de la Manif pour tous, vous aviez à la fois, j'ai envie de dire, une droite chrétienne traditionnelle, conservatrice, défendant les valeurs, s'opposant aux politiques de la vie, s'opposant à l'homoparentalité, et en même temps un certain nombre de gens qui passaient alliance avec la droite identitaire et donc avec l'extrême droite. Et le catholicisme patrimonial, pour moi, c'est de cet ordre-là. Et c'est quelque chose dont on voit bien comment ça peut fonctionner. C'est à la fois pour ces gens qui sont authentiquement pieux, authentiquement pratiquants, qui transmettent les valeurs dans leur famille, c'est donc quelque chose qui est vital pour eux, mais c'est aussi quelque chose dont ils constatent que ça disparaît dans la société française. Cette droite catholique ne cesse de subir des défaites.
Mais est-ce que cette définition que vous donnez, là, de ce catholicisme patrimonial, ne peut pas être aussi adaptée au catholicisme réformateur? Alors vous disiez, c'est pas forcément de gauche, mais bon, comment le définissez-vous par différence, distinction avec celui que vous venez de décrire?
Défendre quelque chose qui est hérité et dont on a absolument besoin, ça me semble un tout petit peu différent de ce qui se passe actuellement autour de la mobilisation, par exemple, contre la pédophilie. Cette droite catholique qui est ressortie, ce conservatisme catholique qui est ressorti, il est ressorti à un moment où la gauche catholique n'existait plus. On a eu un moment catholique de gauche dans les années 70 et on sait tous que ce moment a disparu. Mais ce qu'on voit actuellement dans la société française, plus généralement, c'est comment les enjeux de la mondialisation, les enjeux de la construction européenne, les enjeux des politiques de genre, qui sont devenus absolument centraux, recomposent les affrontements politiques, recomposent les débats politiques. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on voit la même chose dans l'Église catholique. Quand je disais tout à l'heure que le catholicisme reste un lieu actif et dynamique, il faut se rendre compte à quel point les catholiques de base, les fidèles, pas forcément engagés politiquement, sont en train de se mobiliser pour réagir à ce qu'ils ressentent comme une crise de l'appareil, et qui est la crise des crimes sexuels et de la pédocriminalité.
Pendant des siècles, Denis Pelletier, on a dit, et c'était une réalité, que le catholicisme structurait la société. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, le catholicisme ne structure plus la société, mais du coup que c'est la société qui structure ou restructure le catholicisme ?
Je dirais que l'alternative est intéressante. Moi, je dirais que il faut faire attention à ne pas opposer l'un à l'autre. Les catholiques ne sont pas que catholiques. Et donc le monde du catholicisme a toujours été traversé par les débats de société, par les débats politiques. Et de plus en plus, à mesure que, alors là, vous avez absolument raison, de plus en plus, à mesure que le catholicisme n'était plus la référence unique, centrale de la vie collective. Et donc aujourd'hui, le catholicisme est à la fois une minorité. On peut définir le catholicisme comme une minorité dans la mesure où les catholiques pratiquants sont devenus, par exemple, très minoritaires. C'est en même temps un patrimoine commun. On le voit à travers Notre-Dame. Et c'est un répertoire de sens qu'on peut mobiliser dans le combat. C'est-à-dire l'histoire du catholicisme, elle n'est pas mobilisée de la même manière par les catholiques de droite qui vont descendre dans la rue pour se battre contre le mariage pour tous, parce qu'ils disent c'est une trahison de notre culture, c'est une trahison de notre société, c'est une trahison de la France, et par les gens qui en ce moment sont en train d'organiser des groupes de travail dans leur paroisse pour dire il faut que quelque chose change dans l'Église.
C'est la fin de la Semaine Sainte, c'est le week-end de Pâques. Est-ce que ça reste, Denis Pelletier, le moment le plus important de l'année, peut-être avec Noël, pour les chrétiens?
Pâques, c'est la principale fête. C'est la première fête chrétienne, bien avant Noël. C'est la fête autour de laquelle s'organise le calendrier liturgique, tout le calendrier liturgique de l'année. C'est la fête de la résurrection de la résurrection du Christ, qui est l'événement central à la fois de la vie du Christ, puisque c'est sa résurrection, et qui renvoie à une histoire du salut très longue, c'est-à-dire la mort du Christ sauve l'humanité du péché originel et la résurrection du Christ annonce la fin des temps. Et donc pour les chrétiens, la fête de Pâques, c'est l'élément central, non seulement de leur année liturgique, mais c'est l'élément central, c'est le moment central, la commémoration du moment central de l'histoire de l'humanité.